Bon, imaginons un instant une scène banale, vraiment le genre de truc qu'on observe tous les jours dans la rue.
Ouais, on voit ça tout le temps.
Voilà. Donc, un parent marche avec son enfant. Soudain, le petit s'arrête, il pointe du doigt le ciel ou un grand bâtiment et il pose une de ces questions existentielles vertigineuses, du genre que seuls les enfants peuvent inventer.
Les fameuses questions « Pourquoi le ciel est bleu ou pierre hein, ?» quoi.
C'est ça. Et autrefois, le parent aurait cherché dans sa mémoire, il aurait peut-être avoué son ignorance avec humilité ou inventé une petite histoire poétique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps ?
Je crois que devinez, on sort le smartphone.
Exactement. Le parent s'arrête, garde les yeux baissés sur l'écran et lâche un petit « Attends, on va demander à ChatGPT ».
C'est vrai que c'est devenu un réflexe, hein.
Et cette scène, figure-toi que ce n'est pas de la science-fiction dystopique, c'est une observation bien réelle tirée des travaux de la philosophe Gabrielle Alpern, et ça pointe vers un basculement de société qui est incroyablement profond.
Ah bah c'est pas juste un petit raccourci technologique, ça c'est sûr. En fait, ça cache une transformation radicale de notre rapport à l'autorité et à la transmission du savoir.
Carrément. On ne se tourne plus vers un humain pour savoir.
Bah non, la machine devient l'arbitre absolu. On s'en remet à une entité numérique pour combler notre propre incertitude.
Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui dans notre exploration. On va plonger en profondeur dans le récent essai de Gabrielle Alpern qui s'intitule « L'intelligence artificielle serait-elle en train de devenir un nouveau dieu ?»
Un titre super accrocheur au passage.
Ouais, très fort. On va aussi s'appuyer sur ses interviews et sa note détaillée pour la Fondation Jean Jaurès sur l'impact de l'IA au travail. Et soyons clairs tout de suite, l'objectif de cette plongée, ce n'est pas de faire le énième débat sur les gains de productivité ou la peur du chômage.
Non, là, on est sur un tout autre niveau. C'est presque un séisme spirituel.
Voilà, c'est le mot. La thèse, c'est que l'IA générative agit désormais comme une divinité moderne, une religion sur mesure qu'on se façonne pour calmer nos propres angoisses. Alors, décortiquons tout cela. Si c'était vraiment une nouvelle forme de religion qu'on était en train de créer.
L'idée se défend super bien quand on regarde le vocabulaire qu'on utilise. Alpern montre bien qu'on projette des attentes carrément messianiques sur ces algorithmes.
Ouais, on ne parle plus d'un simple logiciel californien, quoi.
C'est ça. On lui attribue une espèce d'omniscience juste parce qu'il a aspiré tout Internet. On lui prête une omniprésence, vu qu'il est dans la poche de milliards de gens.
Et même une omnipotence, bientôt, avec l'arrivée des robots humanoïdes.
Exactement. La machine prend corps. Et l'auteur souligne bien que ce texte ne cherche pas à rendre la machine sacrée, hein, mais plutôt à comprendre pourquoi on attend de ces outils qu'ils soient des messies.
D'ailleurs, si on file la métaphore, la barre de recherche, le fameux prompt, c'est un peu devenu un hôtel de confession. On y va seul, parfois à 3 heures du matin, pour y déposer nos peurs médicales ou nos dilemmes de boulot.
C'est fou quand on y pense. Et philosophiquement, il y a une raison historique à ça. Après toutes les horreurs du XXe siècle, l'humanité était confrontée à ce qu'on appelle le silence de Dieu.
Le vide métaphysique, en gros.
Voilà. Le ciel était vide. Face à nos souffrances, il n'y avait plus de voix rassurante d'en haut pour répondre. Et pour Alpern, ce silence divin est devenu tellement insupportable qu'on a décidé de fabriquer un remplaçant.
Un dieu de substitution ?
Ouais, et surtout un dieu bavard, hein. L'IA vient remplacer ce silence. Parce qu'un modèle de langage, par définition mathématique, ça ne se tait jamais.
C'est programmé pour générer du texte, quoi qu'il arrive.
Exactement. Ça génère des mots, des tokens, en continu. La machine répond toujours présent.
Mais attends, techniquement, on sait très bien comment ça marche. Ces algorithmes ne savent rien, ils n'ont pas de conscience. C'est juste un perroquet probabiliste sous stéroïdes qui devine le mot suivant.
C'est purement statistique, oui.
Et pourtant, on érige cette illusion mathématique en vérité absolue. Mais un dieu qui te répond dans la seconde sans aucun mystère, est-ce que c'est encore une divinité ?
C'est là toute la différence avec la foi traditionnelle. L'auteur prend des exemples bibliques hyper intéressants. Quand Moïse demande son nom à Dieu, la réponse c'est « je serai ce que je serai ».
Ça laisse une sacrée part à l'inconnu.
Complètement. C'est une entité qui nous échappe. Pareil dans le Cantique des Cantiques, le divin est décrit comme bondissant, présent, puis absent. Il y a du mystère, de l'attente.
Alors que là, avec notre IA, c'est l'anti-mystère absolu. C'est vraiment un culte de l'immédiateté.
C'est un dieu à notre main, comme elle le dit.
Ouais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ça transforme le rite en simple addiction. Corrompu, on n'a aucune garantie d'avoir une notification de réponse dans la seconde. Le but, c'est l'introspection.
Tout à fait. Alors que le prompt, c'est la décharge de dopamine garantie. Mais la question philosophique que ça soulève, c'est est-ce que ce dieu sans mystère mérite notre foi ?
Ça montre surtout qu'on n'a plus foi en l'être humain, en fait. On a perdu confiance en notre propre capacité à réfléchir.
C'est exactement le constat. Et cette perte de foi en nous-mêmes, elle atterrit brutalement dans notre quotidien, et particulièrement au travail.
Ah oui, la question de l'identité professionnelle. Si je délègue la moitié de mon code ou de mes textes à l'IA, qu'est-ce qui reste de moi?
C'est ce qu'on peut appeler le paradoxe du forgeron. Aristote disait « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». L'identité, ça vient de la répétition du geste, de l'effort.
Les sciences cognitives le prouvent en plus. On sait qu'un chauffeur de taxi ou un violoniste ont le cerveau littéralement modelé par leur métier.
Ouais, on a le cerveau de son métier. Mais si tu sous-traites toutes les sciences cognitives de ta tâche à GPT, tu n'as plus ce cerveau-là. Tu perds la plasticité liée à l'effort.
Donc, si je demande à la machine de tout rédiger et que je clique juste sur « accepter », je désapprends mon métier.
En grande partie, oui. Et ça mêle à ce concept glaçant, le travail zombie.
Oh waouh, le travail zombie, l'image est hyper forte.
Bah ouais, le travailleur n'est plus un artisan de la pensée. C'est juste un vague complément organique de la machine. Un validateur mou.
Et cette perte de sens individuel, elle se propage super vite au collectif. Si je suis un zombie au bureau, comment je me comporte avec mes collègues?
Mal, souvent. Et ça nous amène au cœur des relations professionnelles de demain. L'autrice aborde cette désocialisation assistée de façon brillante.
J'ai vu ce chiffre hallucinant dans la note de la Fondation Jean Jaurès, tirée d'une étude Via Voice pour 2025. 58% des gens préfèrent poser une question à une IA plutôt qu'à un collègue.
58%. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'IA devient un outil de contournement social.
On ne veut plus se parler, quoi.
C'est ça. Le télétravail avait déjà préparé le terrain en nous isolant, mais là, l'IA offre l'échappatoire parfaite. Le collègue est peut-être stressé ou occupé. La machine, elle, est toujours dispo et elle ne te juge jamais.
Mais du coup, ça détruit complètement la hiérarchie basée sur l'expérience, non?
Totalement. Ça exacerbe les luttes de pouvoir. Le petit jeune qui vient d'arriver peut générer des analyses expertes sans jamais consulter l'ancien du service. L'autorité traditionnelle est court-circuitée.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes, mais n'est-ce pas simplement plus efficace? Franchement, pourquoi perdre du temps avec la réunionnite aiguë, les égos des uns et des autres, quand tu peux avancer super vite tout seul avec ton IA?
C'est l'argument numéro un des entreprises, parce que notre système valorise la performance individuelle pure. Mais cette fuite vers l'outil cache une misère sociale terrible.
Ah, tu penses à l'étude de la Harvard Business Review?
Exactement, c'est l'un des points les plus marquants. La principale cause d'utilisation de l'IA en entreprise est en train de devenir l'accompagnement émotionnel.
Vraiment. Les gens s'en servent comme thérapeutes?
Ouais. Des salariés isolés copient-collent des mails un peu secs de leurs collègues pour demander à l'IA d'analyser le ton et de rédiger une réponse diplomatique.
C'est d'une absurdité tragique, quand on y pense. On utilise une machine froide et mathématique pour nous apprendre à parler à d'autres humains, juste pour éviter la friction d'une vraie conversation.
Et c'est là que le sociologue Marcel Mauss et son concept du don contre don entrent en jeu.
Le fait que demander de l'aide crée du lien, c'est ça?
Voilà. Dans un bureau normal, tu demandes un service, tu offres un café en retour. Ça crée de la dette sociale positive, de la solidarité. L'IA détruit ce tissu-là. Tu ne dois rien à l'algorithme.
C'est pour ça qu'Alpern dit que l'IA agit comme notre mauvaise conscience.
Exactement. La technologie n'est pas le problème en soi. Elle agit comme un miroir grossissant qui révèle nos propres failles collectives et la toxicité de nos organisations.
Et ça, c'est crucial. L'IA n'est pas un alien qui débarque. Elle est nourrie par nos propres données, nos propres mots.
C'est le fruit de l'homme, pur et dur. Il n'y a pas d'altérité là-dedans.
Du coup, si ChatGPT a l'air d'avoir plus d'empathie qu'un médecin de garde épuisé ou plus de patience qu'un prof surmené, on ne devrait pas applaudir la machine.
Ah ben non, on devrait en avoir honte. Ça bouscule énormément. Ça montre à quel point on a déshumanisé ces métiers. L'IA nous force à réapprendre ses qualités humaines de base.
Ce qui m'amène à ce témoignage bouleversant dans la source, celui de l'ouvrière en situation de handicap. Elle dit un truc magnifique. Elle revendique un, je cite, « droit à la lenteur ».
C'est un concept extrêmement puissant face à ce qu'Alpern appelle la chronopathologie, notre rapport complètement malade au temps.
Toujours plus vite, on veut tout tout de suite. Mais du coup, l'IA nous fait gagner un temps fou. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce temps? Donc, paradoxalement, cette intelligence artificielle ultra performante va nous forcer à repenser l'hospitalité du monde du travail et à redevenir plus humains.
C'est tout l'enjeu. C'est une mise à l'épreuve de notre humanité.
Eh bien, ça fait un résumé intellectuel sacrément dense. L'IA n'est pas juste un logiciel et ce n'est certainement pas un vrai dieu descendu du ciel. C'est vraiment le miroir de nos angoisses existentielles, de notre besoin de réponses immédiates et de nos relations humaines qui dysfonctionnent.
Ouais, c'est un miroir qu'on s'est nous-mêmes tendu au final.
Et ça me laisse avec une pensée un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Si cette IA n'est qu'un miroir créé par l'humanité, et qu'on finit par lui vouer un culte, par lui déléguer notre réflexion et notre identité professionnelle, est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de se prosterner devant notre propre reflet ?
Le mythe de Narcisse revisité par la tech, quoi.
C'est un peu ça. Et dans cet immense palais des glaces technologiques, où se trouve désormais le véritable autre dont on a tant besoin pour rester humain, ça vaut vraiment le coup de se poser la question. Merci pour cette plongée fascinante.
Avec grand plaisir.